Il y avait une photo comme ça qui trônait sur la commode de mes parents d'un bébé posé sur un autel d'une église. Et la peau de ce bébé était très blanche, très talquée comme ça, quasi nue avec juste un drap. Je lui demandais qui c'est, puis on m'a dit c'est ton frère. Je dis ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, il est mort à la naissance, très bien. Donc je m'appelle Domenico par défaut d'un frère qui est mort-né.
Vacarme.
Et si vous étiez né avec un autre prénom?
Véronique Marty, Marc Hughes.
Bonjour, Domenico Carli est né en 1965 dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Aujourd'hui, il est comédien, auteur et metteur en scène de théâtre à Lausanne. Depuis 53 ans, il porte le même prénom qu'un frère aîné décédé à la naissance, Domenico. Et quand je dis qu'il porte ce prénom, il faut entendre que pèse sur ses épaules et sur sa vie le poids d'un être à la fois absent et omniprésent. Le phénomène n'est pas rare. Le peintre Salvador Dali a lui aussi hérité du prénom d'un frère mort avant sa naissance. Et toute sa vie, il sera animé du désir impérieux de remplacer ce frère adulé, d'effacer son souvenir très présent au sein de la famille. Et Domenico Carli, l'homme de théâtre lausannois, comment s'est-il construit et comment a-t-il vécu malgré et avec l'héritage encombrant de son aîné disparu ? Voici La Place du Mort, un reportage de Véronique Marty, réalisé par Mathieu Ramsauer.
C'est celle-là.
Qui se marie avec l'accordéoniste aveugle qui joue et puis les enfants qui l'embêtent, le vent qui souffle. Je crois même qu'elle part vers un avion, un biplan comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec une musique comme ça?
Et donc pourquoi cette musique?
Ben parce que c'est une musique qui est déjà magnifique, faite par un monsieur qui a écrit une page de l'histoire de la musique mondiale, en tout cas de la musique de film, Nino Rota. Et quelqu'un qui a surtout su mettre en musique des sentiments, quoi, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais cette musique, en fait, elle est strappalacrime, mais comme on dit, elle arrache les larmes. Surtout quand on a passé déjà 1h30, 1h50 avec Fellini dans ses amarcordes. Ses amers souvenirs ou son « Je me souviens », son film sur son enfance, sur Rimini, avec ses personnages qui sont tellement énormes. Enfin, c'est sa bande de copains, quoi, avec qui il va grandir tout au long du film.
Et alors, pourquoi est-ce que ce film, pourquoi est-ce que cette musique sont reliées à la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi vous vous appelez Domenico?
Ben oui, parce que Domenico, ben c'est un nom italien, et que ce film qui de Fellini, en fait toute la filmographie de ces années-là, c'est-à-dire l'après-guerre italien, ce qu'on a appelé le néoréalisme italien, puis ensuite la comédie à l'italienne, ben on photographie une Italie qui n'existe plus, qui est en train de disparaître totalement, laissant place à une Italie plus arrogante, plus standardisée peut-être. Et donc, le lien avec mon prénom, c'est que moi, ben, je porte un prénom que je ne devrais pas porter. Donc, je m'appelle Domenico par défaut d'un frère qui est mort-né et qui devait s'appeler Domenico. Donc, comme il est mort-né, mes parents ont dû attendre 5 ans pour avoir un autre enfant. C'était le conseil que leur a donné leur médecin dans les années 60, donc. Et en 65, moi, je suis arrivé. Comme j'étais un petit garçon, ben voilà, mon père a décidé de me baptiser du nom de son père, en fait. Domenico, c'est le nom de mon grand-père, que je n'ai pas connu. Et donc, voilà, je porte ce prénom-là. Si mon frère avait survécu, eh ben, j'aurais dû m'appeler Salvatore, sauveur. Donc, voilà, je m'appelle Domenico d'un prénom d'emprunt. Et pour revenir à Fellini, ben, quand il montre comme ça des images de son enfance à lui, de cette folie, de cet imaginaire, de cette fantaisie qu'ils ont nourrie pendant leur enfance, ben, je me reconnais totalement parce que on a dû s'inventer. J'ai dû m'inventer un frère, enfin, puis en tant qu'immigré, on s'invente des racines, on s'invente une culture, on essaye d'attraper les morceaux pour se construire une identité, pour se construire un monde dans lequel on puisse évoluer. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me disais que démarrer avec Nino Rota et cette musique-là de Amar Kord, qui est un film sur la mémoire, était pertinent.
On peut parler quelques instants de ce premier Domenico?
Bon, déjà, c'est un tabou hein, dans la famille, donc on en parle à peine. Donc moi, j'ai essayé d'en savoir un peu plus.
Mais vous avez appris son existence quand?
Relativement tôt, parce qu'il y avait une photo comme ça qui trônait sur la commode de mes parents d'un bébé posé sur un autel d'une église. Et la peau de ce bébé était très blanche, très talquée comme ça, à moitié, enfin quasi nue avec juste un drap. Je demandais qui c'est, puis on m'a dit c'est ton frère. Je dis ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, il est mort à la naissance, très bien. Puis comment il est mort à la naissance? Et donc là, on m'a raconté une histoire un peu folle, où visiblement, dans les années 60, dans le sud de l'Italie, hein, zone sinistrée de l'Europe, on est loin du boom économique dont tout le monde parle, hein, dans le sud, dans ces années-là, eh bien, l'enfant était visiblement trop grand. Et donc, dans le ventre de ma mère. Et donc, le médecin aurait dit à mon père, écoute, tu as le choix entre soit sauver ta femme et donc sacrifier l'enfant, ou sauver l'enfant et donc sacrifier ta femme. Alors là, c'est le sujet d'une tragédie, on l'a, hein, si on en cherche un, il est là. Et donc, mon père a fait le choix de conserver sa femme, enfin ma mère, en disant, ben, ma femme pourra me donner un autre enfant, tandis que mon enfant, difficilement, pourra me restituer ma femme. Donc, il faut avoir du sang-froid hein, pour choisir comme ça. Et c'était sur le moment. Il n'y avait pas deux semaines de réflexion. Et donc, voilà, ils ont sacrifié cet enfant. Et moi, j'ai toujours cette image devant les yeux, bien sûr. Et vu la vie que je mène, je me dis que des fois, ouais, j'ai l'énergie de deux. Je vis avec quelqu'un d'autre en moi et qui me pousse au cul, on va dire, pour affronter des projets, pour m'engager dans des histoires toujours plus folles les unes des autres, mais enfin, c'est vraiment un stimulus, une décharge électrique. Dès que je m'assoupis, boum, il y a quelqu'un qui arrive et qui fait, tu fais quoi? Tu t'endors. Il y en a un qui n'a pas eu le droit à ça. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Donc, j'avance le plus possible pour essayer de pas de me justifier à ses yeux, parce que je suis pas paranoïaque, je veux dire, y a pas, ou ni schizophrène d'ailleurs, mais vraiment là, j'ai l'impression qu'il faut, voilà, que le temps est presque compté. Donc, comme ça va pas durer éternellement, hein, pareil, cette existence, il faut vraiment remplir cette double existence, quoi.
Et le théâtre, parce que vous êtes metteur en scène, comédien, oui, auteur, quelle place a ce premier Domenico dans...
Ben, toutes les places, parce qu'en fait, c'est, au théâtre, ben, on s'invente des personnages tout le temps. Et le fait de s'inventer des histoires qu'on raconte à quelqu'un, et en quelque sorte, plus ou moins de manière inconsciente, un hommage, une adresse que je fais... assez tôt, parce que j'essaie de savoir, tiens, qu'est-ce qu'aurait été ma vie s'il avait survécu? Comment j'aurais réagi? Comment il m'aurait conseillé, déconseillé? Est-ce qu'on aurait été en conflit? Est-ce que... Et donc, là, pour l'instant, je lui écris des histoires. On verra là s'il me répond une fois. Quoi.
Mais alors, c'est difficile d'imaginer une autre situation, mais si vous ne vous étiez pas appelé de la même manière, est-ce que ça aurait changé quelque chose?
Déjà, il s'en est fallu d'un cheveu, donc je ne m'appelle pas Domenico, mais Salvador aussi. Là, ça, peut-être que je n'étais même pas prévu. Si lui était né, peut-être qu'il serait arrêté là, enfin voilà. Je pense oui, parce que très longtemps, j'avais une folle envie d'être comptable, d'avoir une Alfa Sud bleue, puis un gros porte-clés, puis un costard, bien coiffé, enfin, comme un gentil garçon comme il faut. Mais très longtemps, jusqu'à 17 ans. Puis après... voilà, les choses sont précipitées dans le théâtre. Mais, et ça, c'est, je pense que c'est peut-être Domenico qui a poussé, l'autre, qui fait « Hop, qu'est-ce que tu fais ?» Donc, j'étais pas du tout destiné à faire du théâtre. Donc, faut bien savoir ça. Mon père, quand, encore aujourd'hui, de la peine à avaler le fait que j'ai pas un métier sérieux et stable. Enfin, voilà, quoi. Comptable aurait été une meilleure voie, mais...
Peut-être Salvatore aurait été comptable.
Alors, oui, oui. Parce que chez nous, en fait, l'histoire du comptable, elle est assez drôle parce que c'est la formation la plus courue. Dans le sud, il y a 1 milliard de comptables. Il n'y a pas une boîte qui roule, mais il y a 1 milliard de comptables. Le Lungomare, la promenade qui longe les Lidis dans le bled, est parcourue par des centaines de comptables au chômage. Et donc, oui, il aurait certainement été comptable, je ne sais pas. Ou pêcheur. Chez nous, il y a cette autre activité, pêcheur. Parfois, oui, j'y pense et je me dis, mais à quoi ça tient? À quoi ça tient, quoi? Si j'étais tombé sur un autre père, il aurait dit, puis finalement, non, je préfère avoir un homme, un garçon qui me... je sais pas quoi, qui m'aide dans mes travaux plus tard, et tant pis, je trouverai une autre femme. Et voilà, fin de l'histoire. Et mon père a fait l'autre choix de garder son épouse et puis de laisser la possibilité à d'autres petits gamins d'arriver, quoi.
Mais ça donne encore plus d'évidence au fait que vous avez remplacé le premier.
Ah oui, oui, oui. Donc beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de projection, beaucoup plus de déception. Vu que je ne suis pas... Je crois que mon père rêvait d'une carrière universitaire pour moi. Alors, je ne l'ai pas eu. Donc, il y a une première déception liée à ça, une deuxième déception liée à ma situation de célibataire endurci, donc non-père de famille, donc sans descendance... Et ça, c'est clair que le fait d'être le premier, l'aîné, le premier survivant, enfin, a généré pas mal de projections et d'espoir. Donc maintenant, ma sœur a 3 enfants, mais c'est ma sœur. C'est autre chose. On est en Italie du Sud, la fille, c'est autre chose. Le garçon, c'est à un certain point, la fille en a un autre. Ma mère a dit, hein, la grande phrase, tu éteins la race des Carli, quoi. Le nom, là, on passe du prénom au nom. Puis j'ai dit, ben non, ce ne sera pas avec moi, quoi. Sorry.
Vos parents s'appellent comment?
Giuseppe et Louisa.
Et là, il y a un lien dans la généalogie familiale?
Oui, oui, parce qu'il y a... je crois l'arrière-grand-père s'appelait comme ça. Et on n'appelait pas... Par exemple, si moi j'ai maintenant un enfant, je dois absolument l'appeler Giuseppe. Ça. Ma sœur a dû changer le prénom de son deuxième enfant parce qu'il ne voulait pas l'appeler comme ça. Du coup, son deuxième s'appelle Giuseppe. La première s'appelle Deborah, qui n'a rien à voir avec rien. Ça a été un scandale. Puis après, Giuseppe est venu. Mais le troisième, c'est Lorenzo. Puis ça, bon, voilà, il s'était fait une raison. Mais sur Giuseppe, il n'y a pas eu à tergiverser. C'était le premier garçon. Enfin, là, voilà, il n'y a pas de saint, quoi, comme on dit chez nous, qui peuvent intercéder. Et donc, voilà, si j'ai un enfant, donc je l'appelle Giuseppe, et si c'est une fille, Louise.
Mais donc ce que je comprends, c'est que c'est une famille où vraiment, il y a très peu de prénoms, et ils se transmettent de génération en génération.
Ma sœur s'appelle Stella, Maria Stella, du prénom de ma grand-mère paternelle.
En fait, on ne se pose pas de questions.
Non, pourquoi? Il n'y a pas de questions à se poser, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on perpétue la mémoire des ancêtres.
François Bonifay, vous êtes psychanalyste et vous avez publié ce livre, Le traumatisme du prénom. C'est quand même étonnant de considérer le prénom comme un traumatisme.
Oui, c'est vrai que le mot peut paraître fort, mais c'est exactement ça. La définition de traumatisme, ça vient de trauma qui veut dire qui a un impact sur. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on choisit un prénom pour un enfant, ça aura forcément un impact sur l'enfant, ça aura forcément des conséquences.
D'accord, mais pas forcément négatif, parce que dans le mot traumatisme, on a l'impression, disons, de quelque chose de traumatisant, donc de négatif.
Oui, c'est vrai, c'est pas forcément négatif, mais enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le choix du prénom n'est pas lié à l'enfant, enfin, c'est, l'enfant n'a pas son mot à dire. Donc, de toute façon, choisir un prénom pour un enfant, c'est déjà pas lui rendre service.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Parce que vous donnez à quelqu'un, finalement, quelque chose qu'il ne veut pas au départ, hein, c'est pas, donner un prénom, finalement, c'est donner le résumé de toute une vie qu'on souhaite pour son enfant. C'est un projet finalement, et le projet qu'on a pour son enfant, ben, il est tellement énorme qu'il faut le résumer, et on le résume en général en donnant un prénom, et ce prénom résume tout le fantasme, hein, on appelle ça un fantasme, tout le fantasme que les parents ont sur l'enfant et tout son projet de vie, tout ce qu'on lui souhaite, hein. C'est rare quand on a un enfant de lui souhaiter de ne pas réussir sa vie, de ne pas avoir de travail et d'avoir que des échecs. Donc ce que les parents vont souhaiter, ben, ça appartient aux parents et ça va être résumé par ce prénom. Et le prénom, ben, l'enfant, il va falloir qu'il fasse avec, tout simplement.
Et vous pensez qu'il y a tout ça dans un prénom ?
Oh, il y a même bien plus encore, parce que vous avez aussi les blessures, ce qu'on appelle les blessures cachées des parents. Quand on s'intéresse au prénom, on ne s'intéresse pas forcément aux mots en lui-même, mais surtout aux raisons du choix. Qu'est-ce qui fait que les parents vont choisir tel prénom plutôt que tel autre. Et les parents, bien souvent, vont puiser dans leur vécu, mais aussi dans le vécu de leurs parents, de leurs grands-parents, de la famille. Et tout ça, ça peut être problématique et ça peut être très compliqué.
Et c'est conscient, c'est inconscient? Je parle aux psychanalystes, là, bien sûr.
Eh bien, je pense que si c'était conscient, les parents changeraient de prénom tout de suite. Donc... Et puis nous, on n'aurait personne dans les cabinets. Non, c'est bien souvent inconscient. Et les parents, généralement, préfèrent dire « Ah ben, on a choisi tel prénom parce qu'il était joli, tel prénom parce que c'était celui de mon grand-père » ou quelque chose comme ça. Il y a toujours des fausses premières bonnes raisons. Et quand on creuse un peu, et quand on parle avec les parents, ben, on s'aperçoit qu'il y a d'autres raisons. Mais... On dit inconscient, mais pas tant que ça, parce qu'il suffit de creuser un tout petit peu et les parents en parlent très facilement, finalement. Et le problème, le traumatisme, c'est que l'enfant, bah, il commence sa vie avec déjà les histoires des autres, avant de pouvoir même commencer la sienne. Donc il va devoir déjà intégrer ses fameuses histoires, commencer la sienne, et puis que la sienne, son histoire, elle puisse aussi être lié à son prénom, et donc il faut qu'il réussisse à s'approprier son prénom. Et ça, c'est jamais évident, quel que soit le prénom.
En même temps, vous disiez, François Bonifay, que les parents ne faisaient pas forcément un cadeau à leur enfant en le nommant à la naissance, mais je vois pas bien comment on pourrait faire autrement. Comment on peut imaginer ne pas nommer les enfants, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette charge ne soit pas si lourde ?
C'est vrai qu'on vit dans une société qui a besoin de nommer les choses pour qu'elles existent. Mais vous avez d'autres sociétés où les parents donnent le prénom que seulement une semaine après la naissance de l'enfant. Vous en avez d'autres, dans certaines régions de Chine, l'enfant va s'appeler Petite Souris pendant 6 mois et ensuite sera choisi un prénom. Ce qui fait que le prénom, il va plus être choisi par rapport à ce qu'on attend de l'enfant, mais par rapport à ce que l'on voit de l'enfant. Et puis, il faut se souvenir aussi que dans les tribus indiennes, le prénom était changé au fur et à mesure que l'enfant grandissait. L'enfant avait un nouveau prénom à 6 ans, avait un nouveau prénom quand il rentrait dans l'âge adulte. Alors, c'était beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Hein. L'âge adulte, c'était dès qu'il était en âge de procréer, et c'était vers 13-14 ans. Et puis, tout au long de sa vie, il pouvait changer. Ce qui fait que le jeune cheval qui courait à travers la prairie pouvait se transformer en vieux cheval fourbu quand il avait 60 ans. Et ça correspondait en fait à ce qu'il était.
Vous, comme psychanalyste, on comprend bien que c'est une matière extraordinaire à malaxer, ces prénoms. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'en faire carrément un livre ? Qu'est-ce qui vous a tellement intéressé, tellement passionné ?
Alors, quand en séance vous recevez des parents qui vous parlent d'un enfant qui, mystérieusement, quand il a 4 mois, se réveille la nuit et hurle pendant un temps donné, pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et puis que vous avez un deuxième couple qui vient vous voir pour la même raison, puis un troisième. Bon, et vous verrez, au niveau des psychanalystes, c'est assez fréquent ce genre de situation, l'insomnie du nouveau-né, avec des cris, des hurlements. Et puis un jour, vous vous apercevez que cet enfant, il avait un grand frère ou une grande sœur qui est décédé au même âge, où lui déclenche ses insomnies. Donc là, on se dit, tiens, il y a forcément un rapport. Et puis on s'aperçoit que cet enfant, ce deuxième enfant, porte le même prénom que le premier enfant décédé. Et puis on s'aperçoit, en fait, que c'est une tradition. Alors, c'est pas une tradition au sens où on l'entend, mais malheureusement, c'est un processus qui est très fréquent où on va donner le prénom de l'enfant décédé. Et l'enfant, quand il fait ses fameuses insomnies, qu'est-ce qu'il dit aux parents? Il dit simplement, mais rassurez-vous, je suis en vie. Donc, à partir du moment où on a compris ça, les insomnies cessent. Mais par contre, le prénom, lui, il perdure. C'est là où je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner pour l'enfant après, avec ce prénom qui est un fardeau d'entrée de jeu? Parce que cet enfant, il n'a pas le droit d'être lui. Il est l'enfant mort. Il est l'enfant mort que l'on fait revivre au travers de lui. Donc c'est vrai qu'au niveau personnalité, au niveau construction, ça va être très difficile. Cette problématique-là, on va la retrouver à 6 ans, on va la retrouver à 10 ans. L'enfant va la retrouver toute sa vie.
Si on reprend cette histoire du point de vue de ce frère qui n'est pas là, c'est profondément injuste parce qu'on a choisi pour lui. Et ces sentiments-là, c'est vrai que il m'anime plus qu'il me hante. Et puis après, ce sentiment-là d'injustice fait naître en moi, en tout cas, un sentiment de désir de justice. Tout mon parcours en fait artistique est un peu animé par ça. C'est-à-dire, on dit que parfois que je fais du théâtre engagé, ou en tout cas je choisis des sujets politiques. Ben oui, parce que j'ai envie de comprendre ce qui m'anime, c'est-à-dire ce désir de justice. Ça a l'air de rien, mais enfin quand même, on a choisi d'éliminer quelqu'un, il faut le dire comme ça, et cette décision-là provoque vraiment un tsunami d'énergie, qui font qu'on est toujours à la recherche d'une réparation.
Est-ce que le fait de porter ce prénom Domenico à la place de cet autre frère augmente encore ces sentiments-là? Parce que ces sentiments, vous pourriez les avoir pour un frère qui aurait eu la même histoire, mais dont vous ne porteriez pas le prénom. Le fait de porter son prénom, est-ce que justement ça apporte une dimension supplémentaire?
Ah, très certainement, parce qu'en plus, c'est pas un prénom anodin. Il y a le mot Dominus dedans.
Et maître.
Le maître et la maison, Domus aussi. Et des fois, quand on me marche un peu sur les pieds, j'ai tendance à dire « Attention, je suis fils de prince, voire même fils de roi. » Donc, je pourrais m'énerver très fort. Et si je m'appelais Francis ou Henri, je ne sais pas, ce serait certainement autre chose. Là, le fait de porter non seulement cette histoire, mais en plus le prénom de quelqu'un qui n'est pas là, très certainement décuple, voire même centuple, cette énergie-là, ce qui fait que je n'arrive pas, J'arrive pas à céder sur des choses qui me semblent injustes et je répète, ça, des fois ça me dessert, mais tant pis, c'est comme ça, Spadalvento, comme on dit chez nous. Spadalvento, faccio solo, l'italien, sta contento.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Faccio solo, spado viento, l'italien, sta contento, c'est une. Face au soleil et peu au vent, l'italien est toujours content, Mais c'est un vers d'un grand poème épique qui raconte une révolte de paysans et de chevaliers italiens contre l'occupant français.
La carme.
Au XIVe siècle, on appelle ça la disfida di Barletta. Et ça donne un peu cette attitude don quichotesque, avec épée au vent, face au soleil, on y va, Suce à l'injustice.
(0) 58 236 236 0 pour réagir à ce reportage de Véronique Marty. Vous portez vous-même le prénom d'un frère ou d'une sœur disparue avant votre naissance. Quelles ont été, quelles sont encore les conséquences de cette décision parentale dans votre existence? 0 58 236 236 0.
Vacarme, Marc Jouze, Véronique Marty, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Mathieu Ramsauer.
Madame Lacrotte peut devenir Madame Lacotte. L'état civil entrera en matière pour un changement de nom pour des raisons évidentes. Mais un prénom, est-ce qu'on peut en changer? Et si oui, dans quelles circonstances?
Donc en 1970, il y a eu la décision du gouvernement à l'époque des Mobutu de faire un retour à l'authenticité. Donc changer tout ce qui était occidental. Donc c'est là où il a supprimé les prénoms. Lui-même, il a pris, il était Joseph Désiré Mobutu. Il s'est mis Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Donc il a pensé retour à l'authentique. Donc on doit supprimer les prénoms.
Demain, dans Vacarme, nous nous intéresserons à ceux et celles qui ont réussi à obtenir de l'état civil un changement de prénom. D'ici là, portez-vous bien. Belle suite de journée sur la première. Jean Leclerc s'avance pour Histoire Vivante, consacrée cette semaine à Lénine.
Histoire Vivante, proposée par Irène Chaland et